Donc on va prendre aujourd'hui, on va faire course sur Yggdal, puisque c'est la suite de la Donnela, mais ici dans les Silmarils. Donc vous prenez à la page 15. D'accord?
Le matin.
Bon, vous faites soit le matin, soit...
Ouais, c'est pas...
D'accord.
On le fait vendredi soir.
Là, il est là? Il est dans le
Tout le matin aussi.
D'accord? Alors justement, on va parler de ce champ de Yggdal. Donc ce champ de Yggdal, c'est un champ qui a 13 rimes. D'accord? Il y a 13 rimes dans ce champ, qui correspondent aux 13 principes de foi, Yud Gimel à Icarim. Alors, on ne sait pas exactement qui a composé ce chant. Le Yabet, il dit qu'a priori, ce chant a été composé par Maïmonide. D'accord? C'est de l'autre côté. Donc, le Yabet, il dit que ce chant a été éventuellement composé par Maïmonide, mais on n'est pas sûr. D'accord? Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent que, enfin, qu'il y a même des preuves qui prouvent que ce n'était pas exactement le style littéraire de Maïmonide. Donc, du coup, on n'est pas sûr exactement qui c'est qui a écrit ce fameux chant de Yggdal. Dans le Shulchan Aruch, dans le Ba'er Etev, c'est écrit au nom du Harizal, que le Harizal n'avait pas l'habitude de dire Yggdal. C'est pour ça, par exemple, le Minhag Rabbat, on ne dit jamais Yggdal. Ni le matin, ni le soir, ni vendredi soir, ni à Yom Kippour, jamais. On ne dit jamais ce chant. Bon, parce qu'il considérait que c'est un chant c'est un joli poème, mais c'est un poème qu'on ne peut pas insérer dans le cadre de la Tfila. Maintenant, d'un autre côté, on a le Shnei Luchot Abrit. Le Shnei Luchot Abrit, donc qu'on appelle le Shla ou le Shalo, qui lui avait l'habitude, donc d'ailleurs Ashgacha Pratit, il est enterré à côté de Rabbi Meir Balanes. D'accord? Il est enterré pas loin de Rabbi Meir Balanes, dans la ville de Tibériade. Enfin, pour être plus précis, il est enterré à côté de Maïmonide. Mais c'est juste à côté. Maïmonide, Rabbi Meir Balanes, c'est à côté. Et lui, on dit que le Shnei Luchot Abrit, qui a vécu à peu près il y a 400 ans d'aujourd'hui, lui, on dit que il expliquait que c'était très important de dire ce chant-là, et il a préconisé à toutes les communautés d'Eretz Israël de le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la majorité des communautés sfarades, on dit le chant de Yggdal, bien que le Harizal avait préconisé de ne pas le dire. La majorité des communautés sfarades, aujourd'hui, on le dit. D'accord? Donc maintenant, on va essayer d'expliquer comment dans le Yggdal, qu'on lit assez rapidement, ou soit le matin, soit le vendredi soir, en vérité, c'est très crypté, et on a ici les 13 principes de foi qui sont cachés, et qui sont camouflés dans le Yggdal et le Kimrak.
Ils sont évidents.
D'accord? Ah, ils sont pas si évidents que ça. Donc, dans le Yggdal, déjà, le premier principe de Maïmonide, le premier principe que Maïmonide nous explique, principe de foi, c'est quoi? C'est le fait que Metziat Hashem, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, Metziat Hashem, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est présent, Akadosh Baruch Hu existe. Ashgacha Pratit, on vient de terminer également le livre de Maïmonide, et on l'a recommencé. C'est pour ça qu'on a fait Siyum Rambam lundi soir. Et la première halakha de Maïmonide, c'est quoi? C'est Yesod a Yesodot ve'amud achochmot, Leida she'esha matsui rishon, que le fondement des fondements, c'est de savoir que Leida she'esha matsui rishon, de savoir qu'il y a une première existence qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le premier principe de foi qu'on retrouve dans le Yggdal. Donc je vais traduire. Yggdal Elokim Chai ve'ishtabach. Ça veut dire que le Dieu qui est vivant pour l'éternité, que ce Dieu-là, Yggdal, ça veut dire que son nom soit grandi, Veishtabach, et qu'on puisse lui donner des louanges. D'accord? Nimtsa, Akadosh Baruch Hu a toujours existé. Donc vous voyez, ça c'est le fondement des fondements de savoir que Dieu a toujours existé. Ve'en a'et el metiuto. Alors, je traduis, c'est un petit peu crypté ça. Ven et kel metziuto, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ven et est en hébreu, ça veut dire un moment. Ça veut dire que c'est un dieu qui ne dépend pas du moment. Ven et kel, donc metziuto, c'est-à-dire que l'existence de Dieu ne dépend pas d'un moment. Donc en fait, vous savez, des fois dans un poème, on change un petit peu l'ordre des mots, surtout en hébreu, pour que ça rime. D'accord? Donc là, on veut arriver à Imetiuto, d'accord? Les Arduto, Kedushato, les Reshito. Donc là, la rime, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit grandi, et que Akadosh Baruch Hu soit Inimtsa, ça veut dire a toujours été là. Ve'en et kel Metiuto, ça veut dire que son existence ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il a toujours existé. Ça, c'est le premier principe de foi. Ça veut dire que on ne pourra jamais dire quand Dieu a démarré et quand Dieu va terminer. Il ne suit pas le même... Nous, toutes les choses.
Il est.
D'accord? toutes les choses qu'on connaît dans le monde, même le soleil, on pourra te dire, bon, je ne sais pas quand il va finir, mais je sais au moins qu'il a démarré à telle date. D'accord ? On peut donner, on peut le situer dans le temps. Akadosh Baruch Hu, en aet, ça veut dire qu'on ne peut pas le situer dans le temps. On ne peut pas le situer autour du temps. Son existence n'est pas liée au temps. Ça, c'est le premier principe de foi que Maïmonide nous dit, et donc qui a été cité dans le Yigdal. Deuxième principe de foi, c'est quoi ? C'est Arduto. Arduto, c'est quoi ? C'est l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que Kadosh Baruch Hu n'est pas formé d'une multitude de détails, comme tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, surtout avec la science, on est capable de voir Yigdal, ici là. Echad, deuxième ligne. Aujourd'hui, avec la science, on est capable de voir qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas composée de plusieurs particules. Même quand on voit juste un élément, en vérité, on va voir qu'il y a toujours cet élément est toujours composé de plusieurs autres éléments. Et justement, le deuxième principe de foi, c'est quoi hein ? C'est de savoir que Kadosh Baruch Hu n'est pas composé de plusieurs éléments. Parce que dans ce cas-là, s'il est composé de plusieurs éléments, alors bon, il y a un élément qui pense comme ci, un élément qui pense comme ça. Et là, justement, le Yigdal, il te dit que non. Deuxième principe de foi, il te dit que l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est composé d'un seul élément. Donc ça veut dire que on peut même pas comprendre ce que ça veut dire, puisque dans notre existence, on ne connaît pas une seule chose qui est composée d'un seul élément. Tout ce qu'on connaît, dès qu'on a trouvé la particule la plus fine, on trouvera toujours une particule encore plus fine, encore plus fine. Et ça s'est jamais arrêté pour l'instant. Et ça ne s'arrêtera pas. Dès qu'on aura les outils pour chercher plus loin, on trouvera plus loin. Parce que justement, notre monde est basé sur le fait qu'il n'y a pas d'unicité. Il n'y a rien qui est unique. Toute chose est composée de plusieurs détails. C'est une multitude de détails qui vont s'assembler. Donc on a le deuxième principe. Yigdal, je suis deuxième ligne. Il dit Echad, Akadosh Baruch Hu est un. Ok, un. On a beaucoup de choses qui sont. On va être un fils unique aussi. Mais Ve'en Yachid Keihudo. D'accord, Ve'en Yachid Keihudo, ça veut dire quoi hein ? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui pourrait être appelé un comme l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, ce que je viens d'expliquer, c'est que l'unicité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout comme le terme unique qu'on connaît. Quand on dit un fils unique, en vérité, il peut être appelé un fils unique, mais il est ce fils-là composé de multitudes de détails. D'accord ? Donc, Echad, Ve'en Yachid Keihudo. Akadosh Baruch Hu est Echad, donc est un, il y a Hachem Echad, un seul Dieu. Mais Ve'en Yachid Keihudo, il y a personne, il y a rien qu'on connaît qui pourrait être unique comme lui. Ne'elam, Ve'gam Ensof Le'arduto. Akadosh Baruch Hu est Ne'elam, ça veut dire qu'il est, il est voilé, il est caché. En quoi on dit qu'il est caché ? Ça veut dire que Ve'gam Ensof Le'arduto, d'accord ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est caché, mais que son unicité n'a pas de fin. Encore une fois, ça veut dire que c'est pas comme nous ce qu'on connaît. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple. On dit par exemple quelqu'un c'est un fils unique. Bon, c'est un fils unique par rapport à ses parents, mais c'est pas un fils unique par rapport au monde entier. Donc il y a toujours une limite. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, Ve'gam Ensof Le'arduto, que l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on dit bon, il est unique pour un certain peuple, ou pour une certaine race, ou pour une certaine personne. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu est unique, Ve'Ensof, ça ne s'arrêtera jamais, c'est pour tout le monde, il sera unique. Donc ça c'est le deuxième principe de foi, qui parle de Arduto, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc le premier, c'était, premier principe de foi, c'est quoi ? L'existence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Deuxième principe de foi.
L'unicité.
Hein, pardon ? Deuxième principe de... Oui, c'est l'existence. Il s'est focalisé sur l'existence, mais c'est plutôt. Deuxième principe de foi, c'est quoi ? C'est... ça veut dire l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, si vous voulez vous rappeler facilement, vous prenez toujours le dernier mot de la ligne, et en général, dans le dernier mot de la ligne, on retrouve le principe de foi en un mot. D'accord ? Donc là, par exemple, on a Metsiuto, après on a les Arduto. Bon. Donc, premier, c'était l'existence d'Akadosh Baruch Hu, deuxième, c'était Arduto, l'unicité. Troisième. Enlo, donc troisième, c'est quoi ? C'est le fait, c'est ce qu'on appelle Achakat Agashmiut. Ça veut dire, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme matérielle. C'est très important. D'accord ? Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme matérielle, donc, c'est ce qu'on va dire ici. Enlo Demut Aguf. Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme de corps. Ve'eno Guf, et il n'est pas un corps. Après, il dit ça, il n'a pas de forme de corps et il n'est pas corps. Par exemple, les anges. D'accord ? On dit que les anges n'ont pas de forme de corps comme notre corps. Mais les anges ont un certain corps. Un corps qui est spirituel, qui n'est pas comme nous. D'accord ? Parce que nous, on est basé sur quatre éléments. L'eau, le feu, la terre et le vent. D'accord ? Les anges sont basés que sur l'eau et le feu. Ça, il explique Maïmonide. Dans le premier chapitre de Maïmonide, il explique là-bas longuement. Mais ça veut dire ils ont une certaine forme de corps. Ils n'ont pas la forme d'un corps comme nous, mais ils ont une certaine forme de corps. On dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a ni la forme d'un corps, et ni c'est un corps. Donc en d'autres termes, Troisième principe de foi, c'est le fait de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas matériel. Donc on ne doit pas s'imaginer Akadosh Baruch Hu comme quelque chose de matériel. Et c'est tellement important de se rappeler de ça qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a dit dans les 10 commandements. Encore dans les 10 commandements, c'est l'ota selechafesel kol temuna, asher bashama imal. Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as pas le droit de faire une image, pas seulement une image de l'idolâtrie, une image du divin. C'est assourd. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme physique, n'a pas de forme matérielle. Donc, en lo demutagu ven ogu, Akadosh Baruch Hu n'a ni de forme de corps, et ce n'est pas un corps. Lo naroch elav kedushato, on ne pourra jamais, d'accord? On ne pourra jamais se comparer à lui, kedushato, tellement Akadosh Baruch Hu est séparé de nous. Vous savez, vous rappelez, une fois on avait fait un cours sur la kedusha, on avait expliqué que kedusha, bien qu'en français, aujourd'hui on traduit français par kedusha, par la sainteté, mais la vraie traduction de kedusha, c'est séparation. Et justement, c'est le troisième principe de foi qui dit qu'Akadosh Baruch Hu est séparé de nous. C'est-à-dire quoi, séparé? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas matériel comme nous. Donc on peut pas parler, on peut pas penser à Akadosh Baruch Hu avec les mêmes notions que si on parlerait à un roi matériel. Et c'est le troisième principe de foi. Troisième principe de foi, de ne pas imaginer Akadosh Baruch Hu comme quelque chose de matériel. Et en passant, faut savoir que dans le Hashgara pratique, c'est bientôt le... Ashgara pratique, la providence divine. C'est bientôt la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, un des textes qu'il a dit à ses élèves, il n'a pas écrit le Zohar, lui il l'a dit. Il a dit à ses élèves, après ça a été transcrit. Un des textes qu'il a dit à ses élèves juste avant de partir de ce monde, c'est un texte qui est inscrit aujourd'hui dans une partie du Zohar qui s'appelle Hidra Rabba. Et avant ce texte de Hidra Rabba là-bas, il y a une mise en garde. Une mise en garde dans laquelle il met en garde ses élèves. Il dit, attention, bien que dans le Zohar, il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est vrai, quand on lit le Zohar, on a l'impression qu'on parle de forme matérielle. Forme matérielle, on a l'impression qu'on parle de choses physiques. Il les met en garde, d'accord? Il met en garde ses élèves de ne pas s'imaginer que Kadosh Baruch Hu est quelque chose de matériel, et de toujours chercher l'image que ça représente. Et il les met en garde. D'accord? C'est le texte qu'on lit aussi le soir de la Brit Mila. C'est le texte de Hidra Rabba. D'accord? Et donc, c'est le troisième principe de foi. Troisième principe de foi qu'on vient de dire, qui dit que en lo demutagu ve en oguf, Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme de corps et il n'est pas corps. Donc c'est pas un corps, ça veut dire qu'en d'autres termes, on ne peut pas s'imaginer Akadosh Baruch Hu incorporel. Oui. Ouais. On ne peut pas s'imaginer Akadosh Baruch Hu de la même manière qu'on se serait imaginé un corps. On y croit pas. Oui.
Chacun a
bit baruch.
Amen. Une redondance, forme de corps et il n'a pas de corps.
Mais non, on a expliqué. Les anges. A priori, ça, c'est le Zohar a été mis sur. A priori, le Zohar a été écrit. Bon, il faut savoir que l'ordre du. Quelle heure il est? Bon, ça va. Il faut savoir que l'ordre du Zohar, le Zohar tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'ordre du Zohar qui a été classé en paracha, ça a été fait par les imprimeurs. Ça n'a pas été fait par Rishon Bar Yochai, ni par ses élèves, ni par les élèves de ses élèves. Ça a été fait par les imprimeurs, c'est-à-dire le fait de classer ça en paracha. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui qui disent que le Zohar, bon, d'accord, c'est l'historien que, bon, j'espère qu'ils vont retrouver la vérité, mais aujourd'hui, bon, peu importe, je veux pas rajouter de l'eau à leur moulin. Voilà. Aujourd'hui, tous les penseurs juifs, sans exception, d'accord, je parle penseurs juifs religieux, pensent que le Zohar est véridique, d'accord, et qu'il a été écrit par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais bien sûr, il était dispersé un peu partout, et après, c'est les imprimeurs qui ont mis ça, donc qui ont compilé ça dans l'ordre de la paracha. D'ailleurs, à tel point, on pense que le Zohar est véridique, qu'il y a même des halachot dans le Shulchan Aruch qui sont basés sur le Zohar, sur la Kabbalah. Alors que, faut savoir que quand on étudie un texte, on dit, bon, il y a un Midrash qui dit, bien sûr, avec tout le respect qu'on a pour le Midrash, on va jamais tirer une halacha du Midrash. Parce que bon, le Midrash, on peut pas tirer une halacha, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Zohar, tellement on en accorde de l'importance qu'il y a des halachot qui ont été fixés autour du Zohar. Beaucoup de halachot qui ont été fixés autour du Zohar. Zohar. Bon, c'est pas... De toute façon, chez les Sfaradim, il n'y a jamais eu de question sur le Zohar. C'est chez les Ashkenazim qu'il y a eu un peu de vent. Alors, donc troisième principe de foi, on a dit Dieu est incorporel. Comme ça tu as dit?
Ouais.
C'est bien. Moi j'aime bien ce sidour, tu sais, parce qu'il te dit en deux mots, c'est bien. Alors, quatrième principe, il est super. Ouais. Quatrième principe de foi. Kadmon, l'échol d'avar, asher nivra. Alors, c'est quoi le quatrième principe de foi? Quatrième principe de foi, c'est le fait de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est ce qu'il y a de plus, que ce qu'Akadosh Baruch Hu est ce qu'il y a de plus antérieur à tout. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu est la première existence possible. C'est-à-dire qu'il précède tout. Il n'y a rien qui est avant lui. Ça, c'est le quatrième principe de foi. Donc, dans les mots, Kadmon, donc dans Kadmon, on a Kodem. Voilà, Kodem en hébreu qui veut dire avant. Kadmon, l'Echol Davar, Asher Nivra. Akadosh Baruch Hu est devant tout ce qui a été créé. C'est-à-dire tout ce que tu trouveras qui a été créé. Chaque fois, on va avancer, on va trouver encore quelque chose, encore quelque chose, encore quelque chose. Mais sache que Kadosh Baruch Hu est toujours avant ça. Donc, vous comprenez que Kadosh Baruch Hu ne peut pas être une créature. Puisqu'il est avant toute créature possible. Rishon, Ven Reshit, Li Reshito. Akadosh Baruch Hu est le premier, mais, comme ce qu'on vient de dire, Ven Reshit, Li Reshito, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son début, parce que par définition, une créature, qui dit créature, dit qu'il y a un moment donné à quel elle a été créée, même si c'est des milliards d'années, s'ils veulent, d'accord? Mais il y a bien un moment où elle a été créée. D'accord? Et là, ce qu'on te dit ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, En Reshit, Li Reshito, il n'y a pas de début à son début, en d'autres termes, c'est pas un début qu'on peut définir par temps, puisqu'il n'y a pas de début. Alors ça, c'est quelque chose que Maïmonide dit, que ça, c'est une notion que le cerveau humain ne peut pas comprendre. Incompréhensible. Parce que nous, notre cerveau humain est conçu d'une manière, c'est pour ça qu'on bloque, d'accord, dès qu'on essaie de comprendre. Maïmonide dit, dès le premier chapitre, il dit, ne cherche pas à comprendre, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. De la même manière qu'il y a des machines qui sont pas conçues pour faire certaines choses, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre que quelque chose n'a pas de début et n'a pas de fin, c'est impossible. D'accord? Il y a bien un moment où ça commence, ouais. D'accord? Il y a bien une limite de temps et d'espace. Même si tu me dis que c'est l'infini, mais je me dis, bon, il y a toujours un point donné. Et là, tu me dis qu'il n'y a pas de point donné, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Impossible. Parce que, si tu veux, le cerveau humain, ce qu'il est capable de faire, il est capable de repousser ce point vers l'infini. Ça, il est capable de le faire. Mais il y a un point quelque part. Je dis, bon, le point, il est à l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point? Impossible. Donc ça, c'est le quatrième principe de foi qui dit que Kadosh Baruch Hu est antérieur à tout ce qui a pu exister.
Il est.
D'accord?
Il est.
Non, il est, c'est le premier principe, ça.
Pardon, monsieur.
Mais il est, il n'est pas dans le temps.
Oui.
Il est antérieur à tout.
Antérieur. Le premier, c'est qu'il est. Il est parti, il est là, il est partout. C'est des facettes différentes d'Akadosh Baruch Hu à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Akadosh Baruch Hu, voilà, on a dit Dieu est omniscient. Bon. Deuxième, c'est Dieu est un, donc l'unicité. Troisième, Dieu est incorporel. Et quatrième, Dieu est antérieur à tout. Maintenant, cinquième, d'accord? C'est ici dans un mot, c'est bien là. Aucun culte étranger à Dieu. Bon, alors on va lire dans les mots. Donc encore une fois, c'est pour vous rappeler facilement, vous reprenez toujours le dernier mot de la ligne. Vous voyez, Kedushato, les Reshito, et là, ou Malchuto. D'accord, c'est quoi ou Malchuto? Malchuto, ça veut dire que on va parler de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun culte, aucune royauté qui peut être étrangère à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on va parler dans le cinquième principe. Dans les mots. Ino Adon Olam Lechol Notzar. Akadosh Baruch Hu est le maître à vie. D'accord, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même si on est maître sur quelque chose, mais on est maître pour une durée donnée. D'accord. Et là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est le maître Olam, ça veut dire à vie. Lechol, pardon. Oui, Olam, c'est dire du monde aussi, mais ça veut dire aussi à vie.
À jamais.
Comme par exemple, pour le Yovel. Quand on dit le Olam, ça veut dire à vie, à jamais. Donc là, Adon Olam, ça veut dire un maître à vie.
Pour toujours.
L'Echol Notar, d'accord, donc c'est le maître, c'est un maître à vie. L'Echol Notar, pour tout ce qui a été créé. Yetira en hébreu, ça veut dire une création. Donc l'Echol Notar, pour tout ce qui a été créé, donc c'est le maître, le roi, donc on parle de la royauté. Yore Gedulato ou Malchuto, d'accord, et Akadosh Baruch Hu montre à tout le monde, Gedulato sa grandeur, ou Malchuto et sa royauté. Donc là, on parle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, du fait que le roi, c'est le patron, et c'est lui qui décide tout. Donc là, on exprime la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, vous voyez, le dernier mot, c'est quoi? Ou Malchuto. Malchuto, dans Malchuto, on a Melech. Melech en hébreu, ça veut dire un roi, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Sixième principe de foi, c'est quoi? C'est la névoie, la prophétie. Donc la prophétie, ça veut dire qu'on a l'obligation de croire en la prophétie. Il y a des gens qui ne croient pas en la prophétie. Il y a des religions dans lesquelles on ne croit pas en la prophétie. On dit que bon, il n'y a pas, c'est une religion qui a été créée par les hommes, pour les hommes, par les hommes, et c'est tout. Il n'y a pas de prophétie. C'est quoi cette prophétie? Alors c'est pour ça qu'il dit ici, par rapport à la prophétie, il dit que Shefa Nevuato Netano. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je sais que quand on chante le Yigdal, on dit Shefa Nevuato Netanokel. C'est les gens qui disent Netanokel. Alors c'est une erreur, puisque dans la phrase, c'est découpé en deux. Shefa Nevuato Netano, Kel Anche Segulato Betifarto. Non, c'est même pas Kel, c'est El Anche Segulato Betifarto. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Shefa Nevuato Netano, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a donné une abondance de prophéties. À qui il a donné? D'accord. El Anche Segulato Betifarto, Il a donné ça, donc c'est même pas un nom de Dieu ici, quel, c'est même pas quel, c'est elle. Elle, Anche, c'est-à-dire vers Anche, Segulato. Donc les gens, Segulato, Vetifarto, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens qu'il a choisis et les gens qui représentent sa gloire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici dans ce verset-là? Ce qu'il veut dire ici, c'est que Maïmonide, il dit que il y a des gens qui pensent que la prophétie n'est accessible qu'aux grands tzadikim. D'accord? Et là-bas, Maïmonide, il explique, il dit que toute personne qui a décidé de se séparer de la matérialité, et de s'adonner à Kadosh Baruch Hu, eh ben il dit, au bout d'un certain temps, on l'appelle dans le langage de la Gemara le Lévi, il devient comme un Lévi, c'est-à-dire qu'il va s'adonner à Kadosh Baruch Hu, et au bout d'un certain temps, il aura la prophétie, Dieu va se mettre à lui parler. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, El Anche Segulato Vetifarto, qu'on a la croyance, on croit, que Kadosh Baruch Hu a donné la prophétie, une abondance de prophétie, El Anche Segulato Vetifarto, ça veut dire... El Anche Segulato Vetifarto, ça veut dire aux gens qui représentent sa gloire et aux gens qu'il a choisi.
Ça pourrait laisser d'accord penser que dans le Torah on dit qu'on peut se couper de tout le monde matériel. Il y a peut-être des gens qui veulent faire cette phrase pour se
non,
dire
ce que
qu'on se retrouve dans certaines autres religions.
Ce que j'entends, c'est pas non. Ce que j'entends, c'est pas ici couper du monde matériel. Je dis c'est se couper de la matérialité, c'est-à-dire de la recherche des plaisirs matériels. Et on voit que ça veut dire qu'il y a une certaine inspiration qui arrive lorsqu'une personne se sépare du monde matériel. Lorsqu'une personne n'est plus à la recherche d'équipe, etc. Au bout d'un certain temps, il a une certaine inspiration. Il a une certaine inspiration. Et c'est ce qu'on dit dans ce principe-là. Et d'ailleurs, vous savez à quel point ça va aller à la chotte, les lois de la névoie, la prophétie. C'est que Maïmonide, dans la loi de la prophétie, dit la chose suivante. Il dit que si quelqu'un vient un jour, il dit « Je suis prophète » et je vous dis « Dieu a dit ça ». Non, il n'a pas de preuve. Est-ce qu'on le croit?
C'est sûr que non.
C'est sûr que
oui.
Bien sûr que non. Eh ben voilà, détrompe-toi. On le croit.
Jusqu'au moment où il faut qu'il arrive.
D'accord ?
On est tous prophètes.
Pourquoi ?
On adore les fêtes ici.
Prophètes. Eh ben écoutez bien, on le croit. Même s'il ne donne pas de signe. D'accord ? Si les Chachamim se doutent que bon, c'est un charlatan, ils ont le droit de lui demander un signe. Mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Mais par contre, s'il a dit qu'un événement allait se passer, et qui s'est pas passé, il est mis à mort.
Ah, il prend beaucoup de risques. Maintenant, c'est ridicule. Et si Hachem, il a changé d'événement après, il est mis à mort.
Ah, ça dépend.
On prend des gros risques, le gars.
Si c'était, alors là-bas, même Menu dit qu'il y en a qui disent que si c'était pour un événement négatif,
oui.
Il a prédit un événement négatif qui s'est pas passé, là ça va. Mais s'il a prédit un événement positif, selon tous les avis, et qui s'est pas passé, mise à mort.
Ça dépend de l'événement. Ça dépend de l'événement qui donne. Si c'est des événements qui ont des probabilités de se passer.
Bon.
Mais dans le bien.
Très bien.
Hachem, il peut faire tchouva.
Ah, tu sais que t'annonces?
Oui, mais qu'ils ont été masqués.
Il y a 10 jours, il y a un gars qui est venu sonner à la porte chez moi, à Betrava de là-bas. Il m'a dit, je suis le Messie. Il m'a dit, je peux faire tomber la pluie et le...
Maintenant, c'est moi.
J'ai dit, allez-y, mais il vit 5 jours ensoleillés. J'ai dit, allez-y, monsieur, envoyez la pluie. Il m'a dit, non, mais je rigole pas, je suis très sérieux.
Alors.
Je pense que je suis le Messie.
Il a fait parce qu'il a vu que vous étiez peut-être...
Non, parce qu'il était chez David. Il a dit, je suis Messie, il a dit, bon, on va mettre Rabban.
David,
il a dit, je vais parler à Rabban.
Mais attends, tu as dit qu'à
priori,
on doit le croire.
C'est toi, Daniel, qui l'a envoyé au Betravan.
Daniel qui l'a envoyé.
Tu as dit qu'à priori, on doit le croire.
Il n'a pas parlé de Messie.
Alors
à moi, il est venu, il m'a dit, écoutez, je pense que je suis le Messie. J'ai des pouvoirs extraordinaires, il m'a dit.
Je vois un Rabban. J'ai des pouvoirs extraordinaires.
Bon, alors. Quelle heure il est? Tu peux continuer encore un peu?
Un petit peu.
Allez. On continue encore et on s'arrête. On finira la semaine prochaine. Alors, donc premier principe c'est quoi? Sixième principe on a dit c'est la prophétie. On doit croire en la prophétie. On croit en la prophétie. Et même si c'est des choses que historiquement on n'a pas de preuves. C'est-à-dire ça nous appelle. Quand tu me dis les Chachamim, je viens de croire qu'ils nous ont dit, mais la prophétie qui te dit que c'est transmis à Kadosh Baruch Hu au prophète. Donc, sixième principe de foi, c'est de croire en la prophétie. Septième principe de foi, c'est quoi? C'est la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui était particulière. Pourquoi elle est particulière? Elle est particulière puisque c'est la première prophétie.
C'est la dernière.
D'accord? C'est la première prophétie puisque c'est lui qui a reçu la Torah une grande partie de la Torah en prophétie. Et c'est lui qui nous a dit la majorité des mitzvot, dont la mitzvah de la prophétie. Ça veut dire que si tu enlèves ce septième principe, tu fais tout tomber. Mais d'accord, puisque tout est basé sur ça, sur le fait que Moshe Rabbeinu nous a dit, Dieu m'a dit ça. Nous, on n'a pas entendu. Nous, on a entendu les 10 commandements, même pas, on a entendu les 2 premiers. Le reste, après, c'est Moshe qui dit, Dieu m'a dit. C'est une prophétie, ça. Qui te dit qu'il lui a dit?
Et avant Moshe, Abraham et tout ça, Dieu a parlé à Abraham en
c'était disant, pas une, oui, c'est vrai, mais c'était pas une Torah.
Je vais les mettre en...
Oui. Mais toutes les misotes qu'on fait aujourd'hui ne sont pas liées au patriarche. Comme Aïmonide dit, même la Brit Mila qu'on fait aujourd'hui, on fait pas la Brit Mila parce qu'on est les descendants d'Abraham Avinu, mais on fait la Brit Mila parce que c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, toutes les mitzvot qu'on fait aujourd'hui sont parce que c'est écrit dans la Torah. Donc, c'est basé sur la prophétie. C'est forcément basé sur la prophétie de Moshe Rabbeinu. En plus, comme on dit dans la paracha Vizata Beracha, on dit que Moshe Rabbeinu, il avait la qualité particulière que Akadosh Baruch Hu, il s'adressait à lui quand lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il était éveillé. Et il dit là-bas, où Tmunat Hashem Yabit, qu'il est capable de voir l'image de Dieu sans perdre connaissance. Parce que normalement, les autres prophètes, dès qu'ils voyaient l'image de Dieu, tout de suite, ils se mettaient dans un état second, mais ils ne pouvaient pas rester dans le même état qu'ils étaient. D'accord? Donc, pardon? Oui, l'image de Dieu, ça veut dire jusqu'à où l'homme peut percevoir. Mais les autres, dès qu'ils commençaient à percevoir la divinité, ils partaient. Bien sûr. Exact. Alors, je finis avec ça. Lokam be Israël ke Moshe Rod. D'accord? Donc il ne s'est jamais levé. Ben Israël, donc là justement, donc on fait mention de ce qu'on peut, c'est presque les mêmes mots que dans la paracha de Tabernacha. Lokam Ben Israël ke Moshe Od, il ne s'est jamais levé Ben Israël dans le peuple juif, ke Moshe, comme Moshe Od encore. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est levé comme Moshe. Navi, ou Mabit et Temunato, quelqu'un qui était capable d'être un prophète, ou Mabit et d'observer, ça veut dire avec toute sa conscience, et Temunato, l'image d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit une image, ça veut dire que c'est forcément une image de ce que les hommes peuvent imaginer. Image, ça vient d'imaginer ici. D'accord? Et ce qu'on veut te dire ici, c'est qu'il n'y a aucun autre prophète qui était capable d'observer le divin et de grainer toute sa conscience. Impossible. Même aujourd'hui, quand il y a des tzadikim, des fois, qui font des sortes de prophéties, bon, je ne sais pas si on a réellement la prophétie. Bon, Maïmonide dit qu'à son époque, la prophétie avait commencé déjà à revenir. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des tzadikim comme la prophétie. Possible. D'accord?
Mais en tout cas, elle était partie.
Ah, c'est clair qu'elle était partie, écrit dans la Gemara, ça. Elle est partie depuis Rabbi Meir. D'accord? Depuis Rabbi Meir, elle est partie. Donc elle est partie, mais apparemment, elle a déjà commencé à revenir. Donc, je rappelle les sept principes de foi qu'on a fait. On a parlé il faut se rappeler de l'existence de Dieu, de l'unicité de Dieu, du caractère incorporel d'Akadosh Baruch Hu, du fait qu'Akadosh Baruch Hu est antérieur à tout ce qui peut exister, du fait qu'Akadosh Baruch Hu est le roi et donc le maître suprême, d'accord, qui domine tout. Sixième principe, la croyance en la prophétie. Et enfin, septième principe, la croyance en la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui était une prophétie particulière et unique. D'accord? On s'arrête ici.